Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti ! On est en journée, place de la République à Paris. Il y a un café, une terrasse, des pigeons, des passantes et des passants. Au milieu, slalomant entre les bancs, des skateurs occupent une bonne partie de l'espace. Pour passer, il faut les éviter. Ce sont en majorité des garçons. Qui occupe le terrain du sport aujourd'hui ? Les pratiques ont-elles un sexe ? Pourquoi la représentativité des femmes dans les instances sportives dirigeantes est-elle si désastreuse ? De Suzanne Lenglen à Serena Williams, sport et sexisme font-ils bon ménage ? C'est la rentrée, bienvenue. Pour cette nouvelle saison de Quoi de Meuf, je ne suis plus accompagnée de Mélanie, qui poursuit d'autres aventures, mais de plusieurs chroniqueuses, dont Anne-Laure Pinault, journaliste tout-terrain, spécialiste des questions LGBT, qui est en plus ma voisine. Bienvenue, raconte-nous un peu ta vie, ton œuvre, Anne-Laure.
Coucou, je suis donc, comme l'a dit Clémentine, journaliste pigiste même au collectif YouPress. Et j'appartiens à l'association des journalistes LGBT qui s'appelle l'AJL pour les intimes. et je suis super contente de rejoindre cette aventure puisque je suis féministe like hell, comme on dit.
Et tu as aussi participé au lancement du média LGBT Committed.
Exactement, Committed, donc committed.fr. C'est un média qui traite des questions LGBT+. Donc le principe c'est de la représentativité, on parle de beaucoup de sujets et c'était une super aventure de participer à ça aujourd'hui.
Cool. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'actu féministe du moment qui est, on peut le dire, très chargée ? De mon côté, j'ai cru comprendre que Cristiano Ronaldo était accusé de viol par une femme qui s'appelle Catherine Mayorga.
Mon Dieu.
Voilà, pour des faits qui remontent à 10 ans à Las Vegas lors d'une fête. Et en tout cas, à l'heure de l'enregistrement, il est soutenu par son club, la Juventus de Turin. Donc on attend de voir ce qui
les
va se passer.
Les clubs soutiennent toujours leurs joueurs dans ce genre de cas, de toute façon.
C'est ça, on a l'habitude. Et de ton côté, est-ce que tu as repéré des choses ?
Moi, mon actualité féministe, elle est très simple. Une camarade féministe de Floride avait posté sur son Facebook une photo depuis un avion où tout le monde regardait l'audition du docteur Christine Blasey Ford, qui a accusé le juge Kavanaugh, donc qui est nominé par Trump pour aller à la Cour suprême des États-Unis. Elle a rappelé donc l'agression dont elle a été l'objet quand elle était au lycée. Beaucoup de gens ont regardé donc l'audition de cette femme forte devant une assemblée de costards-cravates raconter ce qu'elle a ressenti à ce moment-là.
J'ai cru qu'il allait me violer. J'ai essayé d'hurler pour demander de l'aide. C'est alors que Brett a mis sa main sur ma bouche pour m'en empêcher. C'est ce qui m'a fait le plus peur et ce qui a eu l'impact le plus durable sur ma vie.
Et le rire de son agresseur qu'elle voit aujourd'hui sur grand écran, cet agresseur qui, depuis, a été donc confirmé à son poste à la Cour suprême et donc va pouvoir revenir sur des lois aussi importantes que Roe versus Wade, donc la loi qui a autorisé l'avortement aux États-Unis. Donc c'est un peu l'actualité pour moi et pour beaucoup de gens et de féministes.
Et c'est vrai que du coup, la Cour suprême sera la plus conservatrice depuis 1937, je crois. Donc
c'est ça, en fait.
C'est quand même un tournant assez grave.
Oui, le déséquilibre est complet. Les républicains et les conservateurs et conservatrices prennent toute la place dans cette instance-là.
Et est-ce qu'il y a un film qu'on peut regarder si on veut se documenter à ce sujet ?
Il y a en ce moment sur Netflix, vous pouvez regarder Roe vs. Wade. Since 2010, 300 abortion restrictions have been passed in this country. Many people are unaware of how restricted abortion has become. Je vous conseille vraiment de le regarder parce que ça peut très bien nous revenir droit dans la figure.
Ouais. Cette semaine, on en a parlé tout l'été, donc je pense que c'est important d'en parler aussi maintenant. On va parler de sport, puisque c'est l'un des endroits où se négocient les normes de genre. Et c'est aussi là qu'il y a traditionnellement des pratiques androcentrées, c'est-à-dire des précarés masculins, puisqu'ils sont censés mobiliser la force, la compétition, etc. Donc de notre côté, on a eu le temps de digérer la Coupe du Monde de foot et la brève épiphanie qu'elle a suscité dans le moral des Français. Et je note au passage que quand de grands événements féminins mobiliseront la Terre entière, on en reparlera.
Clairement. D'ailleurs, on peut rappeler qu'à l'occasion de ces festivités androcentrées, nombre de femmes ont été victimes d'attouchements et d'agressions sexistes.
Ouais.
Mais l'année prochaine, donc du 7 juin au 7 juillet, il va y avoir la Coupe du Monde féminine dans tous les stades de France.
Ouais, enfin.
c'est hyper attendu. Et ce qui est fou, c'est que depuis la Coupe du Monde de rugby, donc c'était en 2014, les Français et Françaises se sont pris d'amour pour le sport féminin, qui jusqu'à présent était considéré comme un sport de seconde zone.
Mm.
Pour ce qui est de la prochaine Coupe du Monde féminine, vraiment, tout a radicalement changé. Une petite source interne au monde du foot que je connais m'a dit que les droits de retranscription pour le prochain foot féminin que se partageront TF1 et Canal+, ont été négociés à 10 millions d'euros.
C'est
quelque chose de très nouveau. Et donc voilà, on ne peut que s'en féliciter.
Oui, on a hâte. Et c'est vrai que tout ça, ça rapporte des sous. Donc ça passe par l'intérêt des marques comme Coca, Visa, Adidas. Et il y a aussi beaucoup de marketing qui va avec. Mais également, on peut s'en réjouir, il y a une professionnalisation des joueuses et une féminisation des arbitres. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore un arbitrage qui est souvent injuste, comme celui dont a été victime Serena Williams récemment. Mais on en reparlera.
En effet, le sexisme n'est jamais très loin. Par exemple, la mascotte de la prochaine Coupe du Monde féminine en 2019, elle s'appelle Etty.
C'est le moment, Etty. C'est ton moment de briller.
Et évidemment, c'est la fille de Footix, puisqu'il faut forcément que ce soit une fille d'eux ou une femme d'eux pour pouvoir être une mascotte.
Du coup, on va s'interroger d'abord, est-ce que le sport est fondamentalement sexiste? Puisqu'il y a un livre qui vient de sortir à ce sujet, est-ce que tu peux nous en parler, Anne-Laure?
C'est aux éditions Anamosa, super maison d'édition. Vraiment, je vous conseille de regarder ce qu'ils et elles font. Ils ont fait quelque chose sur la violence domestique, par exemple. Bref. Là, le livre en question, c'est du sexisme dans le sport de Béatrice Barbus. Donc Béatrice Barbus, elle est sociologue et elle a aussi été présidée à un club de sport masculin de haut niveau, le Handball Ivry Club. Donc elle a un peu la double casquette et elle peut vraiment parler du sexisme dans le sport.
Elle est très légitime.
Exactement, puisqu'elle l'a subi. Donc ce qui est chouette dans ce livre, c'est qu'elle décrypte avec l'angle de sa propre expérience et de façon macro, vraiment comment fonctionne le sexisme dans tous les étages.
C'est un peu paye ton maillot sur toute la ligne. Donc elle récapitule des phrases sexistes, des perles sexistes qu'on a pu entendre. Par exemple, on ne peut pas toujours parler de donner de l'argent à cette bande de lesbiennes. L'auteur de cette citation est Felice Belloli, le président de la Ligue amateur de foot italien.
Charmant.
On le salue au passage. Il y a également « Une femme qui se bat au judo, ce n'est pas quelque chose de naturel, de valorisant. Pour l'équilibre des enfants, je trouve que la femme est mieux au foyer. »
Mais qui a pu dire ça?
Eh bien, c'est David Douillet, l'inénarrable.
Oui, l'argument de « c'est pas naturel », c'est un peu la chose qu'on retrouve régulièrement dans le sexisme, dans le sport, c'est-à-dire que le corps des femmes n'est pas fait pour le sport.
Mmh.
Il est fait plutôt pour l'accouchement.
C'est ça. Tout ça, ça remonte à assez loin. Qu'est-ce qu'on peut dire historiquement sur le rapport des femmes au sport?
Déjà, les femmes sportives dans l'histoire, à la base, c'est quelque chose qui n'existe pas. Enfin, on a les Amazones, qui représentent un peu le mythe d'une femme qui n'est pas juste à la maison et dans son gynécée.
Ouais.
Et il y a l'exemple de Pierre de Coubertin, donc l'instigateur des Jeux Olympiques. C'était à la fin du 19e siècle. Lui, il s'opposait carrément à la présence des femmes dans les compétitions. Et il disait, à la façon de David Douillet plus tard, « Le rôle de la femme reste ce qu'il a toujours été. Elle est avant tout la compagne de l'homme, la future mère de famille, et doit être élevée en vue de cet avenir immuable. »
Très belle imitation de Pierre de Coubertin.
Mais oui, j'aurais dû faire un petit geste. Avec.
Donc finalement, il faudra attendre 1917 pour que se crée une association qui s'appelait l'Union française de gymnastique féminine. On pourrait croire que c'est une avancée, mais en réalité, elle prenait un sport éducatif, je cite, « sans compétition, sans pratique violente et gracieux ». Puisque, donc selon un vieux stéréotype, le sport viriliserait les femmes, donc ce qui rendrait poreuse la distinction binaire entre les sexes. Et ça fait très peur, puisque c'est transgressif.
Mmh.
On peut rappeler également que certaines activités sportives ont vraiment été mises en place pour conjurer la féminisation des jeunes garçons dans certaines classes sociales, donc certaines classes sociales aisées, dans des milieux urbains. On s'est dit, ah voilà, ils vont à l'école, donc ça va être des femmelettes. Alors vite,
oui.
Vite au foot.
Vite au foot et pas là dans un petit rappel de Billy Elliot.
C'est ça. Bon, en tout cas, les premiers JO féminins se sont finalement tenus en 1922.
Oui, et la meuf à qui on doit ça, c'est Alice Millia. Alice Millia qui a donc créé les premiers JO féminins. Et on ne trouvera jamais aucune statue d'elle nulle part, même dans les grands stades Elle est un peu la Alice Guy, donc, qui est la première réalisatrice de fiction au cinéma et qui est complètement passée au crible de l'invisibilisation historique. Personne n'en a entendu parler et pourtant, c'est la première réalisatrice.
C'est vrai que les journées du matrimoine qui organisent des visites guidées le même jour que les journées du patrimoine font souvent des parcours autour d'Alice Guy au but de Chaumont. Donc allez-y au mois de septembre si vous êtes là. Et pour en revenir au sexisme qui perdure encore aujourd'hui, on remarque autour de nous qu'il y a toujours ce qu'on appelle une division socio-sexuée des activités sportives entre les filles et les garçons. On a une petite pensée émue pour celles et ceux qui ont été inscrits de force au judo ou à la danse, n'est-ce pas ? Enfin, ce n'est pas mon cas, mais... Et en plus de ça, s'ajoute le fait que les infrastructures sportives sont elles aussi genrées.
Bien sûr.
Le géographe Yves Rébaud, qui est chercheur à l'université de Bordeaux-Montaigne, lui a constaté dans le magazine Qu'est-ce qu'on fait que 75% du budget public destiné aux loisirs des jeunes profite, sans surprise, aux garçons.
Sans déconner.
Donc c'est surtout les stades de foot en fait, qui sont le plus représentés sur le territoire français, on a pu le remarquer. Et lui-même poursuit, je cite... Les mairies vous disent qu'à leur âge, les filles préfèrent rester chez elles et faire leurs devoirs. Quand on écoute les adolescentes, elles vous parlent plutôt des mini-brimades et des moqueries qu'elles entendent de la part des garçons. C'est le sexisme ordinaire qui les éloigne du sport. Donc voilà, ce n'est pas la nature qui empêche les filles de faire du sport. Et donc lui recommande en fait plutôt d'investir dans la natation ou l'athlétisme, qui sont des sports pratiqués par tous et par toutes. Et il a aussi noté que l'installation de miroirs sur l'esplanade de la bibliothèque François Mitterrand à Paris avait attiré pas mal de groupes de danseuses. Donc en fait, c'est possible d'influer sur la manière dont l'espace public et le sport interagissent.
Oui, le sexisme perdure assez follement en termes de rémunération. Évidemment, les championnes sont beaucoup moins payées que les champions.
C'est étonnant.
Exception faite du tennis. Le tennis a instauré l'égalité de salaire depuis 1973. C'était à l'US Open et ça, c'était grâce au combat acharné de Billie Jean King.
Oui, qu'on peut retrouver dans le film Battle of the Sexes.
Voilà, une championne de tennis. Pour donner un exemple affreux, par exemple, le soccer américain, donc le foot américain, est bénéficiaire chez les meufs, déficitaire chez les hommes. Mais quand un joueur de foot est vainqueur, il reçoit 17 000 dollars par victoire. Une meuf en reçoit 1350.
Et alors, pour couronner le tout, il y a aussi eu un petit moment MeToo dans le sport. Une petite épiphanie, puisqu'il y a eu pas mal de scandales sexuels qui sont sortis récemment. Donc, on peut citer aux États-Unis l'ancien médecin de l'équipe nationale de gym, Larry Nassar, qui a agressé sexuellement au moins 265 jeunes sportifs, c'est quand même énorme, pendant plusieurs années, en prétendant les masser ou les soigner. Et donc, il a été reconnu coupable, notamment de pédophilie, en janvier dernier et condamné plusieurs fois.
Oui, en France, on a eu aussi le cas en 2017 avec Régis de Camaret, donc cet entraîneur de tennis qui a agressé plusieurs de ses élèves dans son club de Provence. Et Isabelle Desmangeaux l'avait donc dénoncé dans son livre « Service volé », c'était en 2007.
Et alors, de notre côté, si on parle un peu de notre expérience personnelle, Anne-Laure, as-tu fait tes génuflexions cette semaine ?
Alors moi, je suis, comme qui dirait, pas du tout sportive. J'ai fait de la danse pour plaire à ma mère.
Oh non !
Mais si.
Madame Pinault.
Madame Pinault. Et j'ai fait 4 ans de judo, 1 an de judo pour le sport et 3 autres parce que j'étais la seule fille du club et que j'en avais ras-le-bol de m'en prendre plein la gueule.
Moi, de mon côté, c'est un peu pareil. Enfin, ce qui a caractérisé ma pratique sportive, c'est... son absence, ou plutôt le nombre de fois où j'ai laissé tomber. Donc j'ai fait du badminton, du softball, ainsi que de la danse du ventre au cours d'une période d'errance. Et aujourd'hui, j'essaie de reconnecter mon corps à ma tête, si c'est possible, en faisant un peu de yoga à mon rythme et un peu de gym suédoise sur de la techno roumaine, quand j'ai le courage. Je cours un tout petit peu, et sinon, je regarde surtout Roland-Garros, puisque ça sent les vacances qui arrivent.
Ah oui, Roland-Garros avec un petit Pimm's limonade, sympa.
C'est ça. Mais contrairement à mes congénères, je ne considère pas que si t'as 30 ans et que t'as jamais couru un marathon, t'as raté ta vie. Donc voilà, désolée. Alors maintenant, on va un peu parler du sport comme outil de revendication pour les droits des femmes, puisque ça a été quand même assez essentiel au cours de l'histoire et récemment.
Vous voyez la photo de Catherine Switzer au marathon de Boston ? C'est une photo où une femme court avec un dossard et derrière elle, un type tente de lui arracher.
Ouais, c'est une image un peu culte.
Exactement. Eh bien, cette image, elle est un petit peu symbolique de la place des femmes dans le sport. On leur refuse tout simplement de concourir. Mais l'histoire qui est un peu méconnue là-dedans, c'est que ce fameux bonhomme qui lui arrache son dossard, il s'appelle Jock Sample. Et en fait, il s'est tellement fait défoncer à cause de cette photo qu'il a fait acte de contrition et qu'il a, au contraire, après, s'est battu pour la place des femmes dans le sport aux côtés de Catherine Switzer.
Ah, petite reconversion sur le tard.
Et oui.
On peut aussi remarquer que c'est grâce à l'usage du vélo, notamment, que les tenues féminines ont évolué au 19e siècle, en tout cas, vers des jupes culottes, un peu plus sportswear que le corset de l'époque. Mmh. Et à cette époque-là, donc en 1895, un journal qui s'appelait le Literary Digest tentait de faire peur aux cyclistes femmes en les menaçant de bicycle face, c'est-à-dire en leur disant qu'en gros, monter à vélo était très disgracieux pour les femmes puisqu'elles faisaient une drôle de tête.
Je crois aussi qu'il disait dans cet article que c'était un petit peu masturbatoire, une femme sur une selle de vélo.
Ouais. Mmh. Très bon. Impudique, en tout cas, ce frottement.
En tout cas, Janie Longo n'approuve pas ce message. Mais c'est vrai que les sports les plus symboliquement appropriés par les femmes, c'est le foot. Ouais. On voit ça en France, nombre de clubs de foot féminins sont en train de prendre beaucoup de place, et le tennis.
D'ailleurs, la première star du tennis féminin qui a été championne du monde à 15 ans, c'est une Française, donc c'est Suzanne Lenglen. On la connaît aujourd'hui grâce au cours Suzanne Lenglen à Roland-Garros. Mmh. Et à l'époque, elle jouait cheville et bras nus. Ce qui était très, très choquant, très impudique.
Mon Dieu.
Et aujourd'hui, la première femme capitaine de l'équipe française de tennis, c'est une femme. Donc c'est Amélie Mauresmo qui remplace Yannick Noah. Yeah, place aux meufs.
Oui, et même Manchester United a choisi une entraîneuse femme pour entraîner les femmes, ce qui est une révolution pour un club comme celui-ci qui, jusqu'à présent, ne demandait que des experts hommes.
Une fois n'est pas coutume.
Exactement.
Et alors, quelle est la place des personnes LGBT+, là-dedans, dans cette tambouille ?
De toute façon, la lutte pour la représentation des personnes LGBT accompagne toujours les luttes féministes depuis toujours. Et donc, c'est normal que le sport soit un de ces terrains-là. Et c'est pour ça que les coming out sportifs sont hyper importants. Et c'est pour ça que, par exemple, dernièrement, il y a eu des manifestations pour demander le coming out des joueurs de foot, par exemple, en Angleterre.
Ouais, il y en a très peu, quand même.
Exactement. Déjà, les hommes, c'est une façon d'apporter un contre-discours à la virilisation forcenée dans le sport. Et les femmes, c'est de montrer qu'elles sont fortes aussi parce qu'elles échappent au fameux male gaze.
Ouais, au regard masculin.
Exactement, au regard masculin. Mais bon, la réalité, et Béatrice Barbus le rappelle bien dans son livre, c'est que nombre de sportifs cachent leur homosexualité ou, pour les femmes, s'hyperféminisent parce qu'elles ne veulent pas être mises à l'écart des opérations marketing. Mmh. Donc, c'est vrai que les femmes lesbiennes ont du mal à sortir du placard encore aujourd'hui.
Et alors, toi, cet été, tu as été aux Gay Games à Paris. De quoi s'agit-il ?
Alors, les Gay Games, c'est une véritable institution qui existe depuis 1982. Donc, ça a été monté aux États-Unis en plein milieu des années SIDA. Le principe, c'était de visibiliser le corps homo comme étant un corps sportif, un corps puissant. Donc c'est une façon de faire une révolution sur ce terrain-là, le terrain du sport qui est très hétérocentré, très virilocentré. Donc c'était vraiment très touchant d'être là-bas, de voir... J'ai assisté par exemple à la compétition de danse sportive, donc de voir des couples de même sexe danser les uns avec les autres.
Ouais.
Mais c'était vraiment très
c'est
chouette.
C'est rare.
Exactement. Mais bon, là, malgré tout, la compétition reste majoritairement blanche, majoritairement masculine. Les personnes trans et intersexes ont dû subir du mégenrage, c'est-à-dire on les a appelés avec le mauvais pronom ou alors avec leur dead name, donc le nom d'avant
leur transition.
D'avant leur transition.
Ouais. Donc, c'est dingue, même aux Gay Games.
Même aux Gay Games. On n'est pas à l'abri.
On écoute le témoignage de Rafif, une réfugiée qui joue au sein de l'équipe de foot non mixte, les Dégommeuses.
Moi, j'aime bien le foot, j'aime bien jouer au foot et surtout quand je suis jouée avec les Dégommeuses, ça me donne aussi la confiance pour continuer à jouer avec eux parce qu'elles sont vraiment très gentilles et j'étais le bienvenu. J'ai trouvé que l'amour et la fraternité là-bas entre les filles. Nous ne sommes pas juste une équipe de foot, nous sommes comme la famille. Nous sommes solidaires entre nous et j'avais une expérience en Tunisie avec une équipe, mais ça ne va pas marcher là-bas. J'ai quitté après quelques jours, mais ici, quand je suis participée avec les deux gommeuses, ça me donne l'envie de rester avec eux, de jouer avec eux. Avant, je joue juste un jour, le lundi, et maintenant, je joue chaque fois quand ils en proposent, même des événements sportifs ou bien même des matchs, ou bien je suis toujours présente parce que j'ai trouvé vraiment le bon accueil et tout.
Vous avez fait tout ensemble la marche des fiertés. Mmh. Est-ce que tu peux me décrire comment ça s'est passé d'être avec les gommeux ce jour-là? Mmh.
C'était la première marche de fierté de ma vie et j'étais vraiment très fière et très contente parce que c'est, dans ma vie, je n'avais pas des marches comme ça. Et c'était avec les deux gommeuses, avec le symbole sur les t-shirts, les symboles des deux gommeuses. Et on a marché tout ensemble, on a crié très haut avec nos principes, avec nos valeurs, avec une coupe qui était fabriquée par les filles. C'est eux qui ont fabriqué une coupe géante, vraiment, c'était très, très bien. Et on a marché toute la marche et voilà, c'était trop cool, c'était vraiment, on était très fiers. D'être les dégommeuses et d'être des lesbiennes devant tout le monde, on a crié que nous sommes fiers.
Ouais, donc c'est vraiment un super témoignage, comme quoi on peut toutes dégommer le terrain à notre façon.
Et enfin, on va parler d'un corps sportif qui défie tous les stéréotypes, un corps inclusif. C'est le cas de Serena Williams, on en a quand même parlé tout l'été, en tout cas j'ai l'impression. Donc pour rappeler les faits, la France s'est une fois de plus distinguée par sa classe au moment de Roland-Garros.
Ah oui.
Où le président de la Fédération française de tennis a critiqué la tenue intégrale de Serena Williams, qu'elle portait quand même pour des raisons de santé, c'est-à-dire pour faciliter une meilleure circulation sanguine. Elle a appelé ça, sa tenue, Black Panther, comme le film du même nom, parce qu'elle soutient la cause Black Lives Matter. Et donc cette tenue a été ensuite interdite par l'institution française, tout simplement.
Quelle classe !
Voilà, et du coup, elle a décidé de jouer à l'US Open en tutu, histoire de bien marquer le coup. Sauf qu'ensuite, elle a subi un arbitrage assez atroce.
For me to say thief and for him to take a game, it made me feel like it was a sexist remark. I mean, like how he's never took a game from a man because they said thief.
Et donc, comme le racisme est très présent dans le sport, on sait aussi qu'elle a moins de sponsors que ses compétitrices, alors qu'elle était quand même numéro 1 mondial jusqu'en 2017. Donc, ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il leur faut, en fait ? Enfin, qu'est-ce qu'il leur faut de plus qu'une championne ?
Et Serena Williams parle souvent de son corps, parce qu'on lui parle souvent de son corps fort, son corps noir.
Ouais, elle est vraiment ramenée à ça, quoi, à sa corporalité. Ouais.
Et en 2015, c'était Sports Illustrated qui l'avait nommée sportive de l'année. Et elle avait donc eu le micro et elle l'avait bien utilisé puisqu'elle avait dit « On m'a regardée de haut, on m'a rabaissée parce que je ne ressemblais pas aux autres, que j'ai l'air plus forte. On m'a ignorée pour ma couleur de peau, on m'a laissée de côté parce que je suis une femme, on m'a critiquée en me disant que jamais plus je ne remporterai de grand chelem parce que je n'en étais qu'au 7e. Aujourd'hui, me voilà avec mes 21 titres de grand chelem et c'est pas fini. »
Ouais.
Oui, c'est pas fini parce que depuis, madame a donné naissance à une petite fille en 2017. D'ailleurs, à cette occasion, elle a alerté le monde entier sur la surmortalité des femmes noires qui donnent naissance aux États-Unis puisqu'elle a failli passer.
Ouais, ouais.
Ça a été très, très dur. Et depuis, elle est repassée en tête du classement.
Et en fait, suite à l'arbitrage dont on a parlé tout à l'heure, une caricature raciste est parue dans un journal australien qui montre vraiment le stéréotype de la angry black woman, c'est-à-dire de quelqu'un qui a une colère pas du tout légitime, alors qu'en fait, elle était complètement légitime.
Oui, et c'est valable pour toutes les personnes noires en général, il faut être patient.
C'est ça.
Il ne faut pas être en colère.
Et alors, est-ce qu'on a des conseils et quelques initiatives cool à recommander sans céder à l'injonction du fitness à tout prix, si possible ?
Alors, initiative cool, la NFL aux États-Unis, donc c'est-à-dire la Ligue de football américain, donc vous voyez le football américain, très violent, très viril, ils ont fait leur place à des cheerleaders masculins.
Ça, c'est cool.
Ça, c'est super cool. Et notamment dans l'équipe de la Nouvelle-Orléans, les Saints. Ce qui est dingue avec cette équipe, c'est que quand l'une de leurs stars, Darren Sharper, avait été accusée de viol, l'équipe l'avait soutenue. Et donc, faire place à des cheerleaders masculins dans cette équipe-là, c'est vraiment symbolique.
Et alors, il y a d'autres initiatives sportives inclusives dont on a déjà parlé dans le podcast, mais qu'on peut rappeler. Les cours de yoga, donc de Fat Yoga, du collectif Gras Politique.
Un super collectif.
Ouais. Le yoga body positive, pratiqué par Jessamine Stanley et Dana Falsetti. Vous pouvez les trouver sur Instagram et sur YouTube.
This sequence is all about just getting into your own body, finding your strength within, and remembering that you are self-confident all the time, no matter what obstacle, no matter where you are.
À Paris, il y a aussi des cours de Pink Parcours, donc c'est des courses et des sauts dans la ville qui sont réservés aux femmes. Sans oublier les cours de Yoga Sans Frontières, qui sont des cours gratuits pour tous et toutes les demandeurs et demandeuses d'asile et sans papier. Donc ça, c'est chez We Are Yogis. Et si vous avez la chance de vivre à Los Angeles, contrairement à nous, vous pouvez tester un club de gym qui s'appelle Everybody Gym, qui est un club LGBT+ friendly, ouvert à toutes les sexualités, toutes les morphologies. Voilà, ça fait assez envie. Et par ailleurs, j'en profite pour passer une petite annonce, puisque Quad Meuf va organiser un cours de yoga qui ne sera pas animé par moi, je vous rassure, mais par Mélanie, puisqu'elle a fait une formation de prof. On vous en reparlera dans la newsletter.
Et pour les gens à Paris, il y a les booty thérapies, donc booty pour le cul. Donc c'est des cours de danse sportive où on apprend à shaker son booty, comme on dit.
Ouais, axé sur le fessier.
Le fessier, les hanches. Donc,
la fierté du fessier.
Exactement. Donc c'est hyper sportif. On sort de là totalement rincé et on a l'impression que notre cul ne nous appartient plus. mais c'est vraiment, vraiment très chouette. Vous pouvez trouver ça très facilement sur Internet, booty thérapie.
Ouais, j'ai testé aussi, je recommande.
Le moment.
Pop.
Culture.
Pop. Culture.
Alors, je ne sais pas si vous regardiez Olive et Tom quand vous étiez enfant, mais moi, je mouillais plutôt sur... Jeanne et Serge. Donc. Et alors, dans l'actu, le sport est justement le sujet d'un teen movie qui est sorti récemment, qui s'appelle Girl, de Lucas Dont. Qui suit le parcours d'une adolescente trans dans le milieu de la danse classique. Et donc, il y a notamment une scène qui fait débat, Anne-Laure.
Oui, alors il y a un souci avec ce film. Il y a toujours les mêmes représentations du corps trans, en fait, avec un focus sur le génital. C'est-à-dire, il y a plein de gros plans sur l'entrejambe de la danseuse. Et c'est toujours la même chose, évidemment. La femme trans choisit la danse classique et non pas la boxe, puisque... Voilà, on répète toujours un peu les mêmes choses. Donc c'est un peu la révolution, un grand coup de truelle.
Oui, bon, on va peut-être s'en passer alors. Moi, sinon, je voulais recommander la série 13 Reasons Why sur Netflix, dont on a déjà parlé.
Salut, c'est Anna. Anna Baker.
Parce que je trouve qu'elle montre assez bien comment la culture sportive aux États-Unis, puisque c'est vrai que nous, on a moins... Voilà, les jocks et les cheerleaders en France. Comment cette culture nourrit la culture du viol et aussi la culture des privilèges dans les lycées et tous les abus que ça peut engendrer.
Mmh. Et puis, vous pouvez toujours regarder Naissance des pieuvres de Céline Sciamma, donc, qui parle justement de l'univers de la nage synchronisée. C'était formidable parce que c'est la naissance d'une passion lesbienne chez des adolescentes qui s'entraînent. Donc on voit le quotidien d'adolescents qui travaillent dur, qui exercent leur corps au sport comme ça. Ça nous rappelle un peu la BD Spinning de Tilly Walden. Donc la BDaste, avait choisi de parler du patinage. Donc là aussi, on suivait une jeune préado qui se comprend lesbienne au fur et à mesure des entraînements. Et c'était vraiment très, très beau aussi.
Et Naissance des pieuvres, c'est quand même les débuts d'Adèle Haenel.
Ouais,
début très, très chaud, très émouvant.
Et très remarqué.
Il y a aussi un autre film plus ancien qui s'appelle Une équipe hors du commun, A League of One's Own en anglais, de Penny Marshall, et qui raconte comment, une fois que les hommes sont partis à la guerre, donc dans les années 40, Il a fallu les remplacer dans les équipes et dans le sport par des meufs, puisqu'il ne restait plus que ça. Et donc, le film suit en fait l'une de ses premières équipes de baseball. Parmi les actrices, on trouve quand même Gina Davis et Madonna.
Ah, Gina Davis.
Ouais. Moi, je suis plutôt Madonna, mais c'est très beau.
Si ma chemise s'ouvrait malencontreusement et qu'on voyait mes seins prendre le soleil, lorsque tu penses qu'il y a des hommes qui ne les ont pas déjà vus.
Bon, c'est pas pour en revenir toujours au patinage artistique, mais moi, il y a un film qui m'a touchée dernièrement. C'est Moi, Tonya, qui revient sur l'histoire de la patineuse Tonya Harding.
J'étais la meilleure patineuse artistique du monde pendant un moment.
C'est ce que t'appelles patiner, bordel.
Pas de gros mots devant les enfants.
J'ai rien dit de mal, connasse.
Qui avait été accusée d'avoir pété le genou d'une concurrente. Ce qui est génial avec ce film, c'est qu'il parle à la fois de sexisme, puisque Tonya Harding était considérée comme moche. En fait, même si elle était une championne, c'est la première patineuse femme à avoir accompli un triple axel. Mais il y avait aussi exploité dans ce film la question du classisme.
Faut faire quoi pour avoir des bonnes notes ?
On juge aussi la présentation.
Suce-moi la queue.
Elle était pauvre, elle fabriquait elle-même ses costumes sur la glace et elle était constamment ramenée à ça aussi. Elle n'était pas polie, elle disait des gros mots, elle était mal habillée, elle était moche. Mais c'était la plus forte. Et le film, je trouve, en parle vraiment très très bien.
Et moi, je voulais parler d'œuvres de mecs, une fois n'est pas coutume. Donc, recommander un film sur le baseball à la fac qui a été réalisé par Richard Linklater, qui s'appelle Everybody Wants Some. Et pour une fois, c'est un film non macho qui déconstruit un environnement viril. Donc, c'est assez rare pour être mentionné. Et puis, évidemment, on ne peut pas oublier l'inénarrable Friday Night Lights, une série sportive qui parle de tout sauf de sport.
Ouais, géniale série.
Ouais, je vous la recommande.
Les recommandations culturelles
de Quoi de Meuf.
Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ?
Alors, il y a un super livre qui vient de sortir aux éditions du Sous-Sol, qui s'appelle « Que le diable m'emporte ». L'autrice, c'est Mary MacLane. Donc, elle avait 19 ans en 1902 quand elle a sorti ses carnets intimes où elle raconte son quotidien de femme anticonformiste. Et elle a vendu 100 000 exemplaires en un mois. Donc ça,
ouais, c'est énorme.
C'est énorme, ça rendrait jaloux Marc Lévy. Moi, ce livre, il m'a vraiment parlé parce que j'ai l'impression que c'est un mélange entre les pensées de Carson McCullers et aussi les tweets de Charlotte de Bruges. c'est un mélange parfait. On suit au jour le jour les pensées de cette fille-là qui, tout le temps, espère l'arrivée du diable. Elle est misanthrope, voire misandre. Elle en revient toujours à parler de son amour pour la dame anémone, qui était sa prof de littérature, histoire que tout le monde, enfin beaucoup de lesbiennes connaissent. Donc je vous lis juste un tout petit passage de sa prière au diable, qui est vraiment très très drôle. Elle dit par exemple « Des femmes et des hommes prodigues en odeur de musc, des petits garçons aux longues boucles, des gens qui nomment la silhouette d'une femme ses formes, doux diable, délivre-moi. » C'est vraiment très très chouette, je vous conseille de le lire. Donc c'est traduit par la formidable Hélène Frappa, c'est aux éditions du Sous-Sol et ça coûte que 17 euros.
Merci, tu me le prêteras.
Ouais.
Alors moi, comme tout le monde, je vais recommander le livre de Mona Chollet, Sorcières, aux éditions La Découverte, puisqu'on avait commencé le podcast l'année dernière en parlant des sorcières. Et que pour moi, c'est quand même l'essai de la rentrée littéraire. D'ailleurs, vous pouvez écouter l'épisode de La Poudre à ce sujet.
La sorcière, c'est juste c'est l'exacerbation de tout ce qu'on déteste chez les femmes. Donc, quand on tue les sorcières, on tue les femmes inacceptables, en fait.
Donc, si vous aussi, vous faites partie de la Mona Chollet Appreciation Society, un club très fermé, vous connaissez peut-être son recueil qui s'appelle Beauté Fatale ou un autre essai qui s'appelle Chez Soi, une
formidable.
Odyssée de l'espace domestique. Donc, comme disait Virginia Woolf, écrire pour une femme, c'est donner de l'importance à des sujets inintéressants pour les hommes. C'est exactement ce que fait Mona Chollet ici en parlant de sorcellerie, un sujet considéré comme ésotérique et réservé aux bonnes femmes. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui mêle très finement l'enquête sociologique et l'anecdote personnelle. Et ce qui m'a frappée, c'est que le livre n'est pas du tout un grimoire à potions magiques, mais qu'en fait, elle ouvre le sujet vers des préoccupations très contemporaines pour parler des femmes qui sortent de la norme et qui sont marginalisées. Donc, avoir les cheveux gris, être indépendante, ne pas avoir d'enfants. Voilà, donc certains lecteurs, certaines lectrices ont pu trouver que le livre s'est dispersé et partait dans tous les sens, mais pour moi, c'est justement ce qui fait sa richesse.
On est toutes des sorcières.
Voilà, et son intérêt.
Allô, allô.
Allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de Meuf vous écoute.
Alors, message auditrice, Claire nous écrit « Bonjour, cela fait quelque temps que je me pose des questions par rapport aux réactions de ma famille sur mes tenues vestimentaires et sur savoir comment leur répondre. Je m'explique, j'ai 19 ans et j'aime porter les vêtements qui dévoilent un peu plus mon corps que la moyenne. Crop top, décolleté et pas forcément de soutien-gorge. En sachant que ne vivant plus chez eux et n'ayant plus le regard de ma mère sur mes tenues vestimentaires, je me lâche un peu plus. Mais lorsque je retourne chez eux, il m'arrive parfois d'oublier que ma mère ne supporte pas de me voir porter ce genre de choses, ce qu'elle ne manque pas de me faire signifier. Dernièrement, elle était assez emportée contre moi car j'avais passé la journée avec un body sans soutien-gorge où l'on pouvait voir la naissance de mes seins. Elle m'a alors accusée de « fémène ». Oula,
ça va long.
Et d'exhibitionniste, ce que je ne prends personnellement pas comme une injure.
Tant mieux.
Elle m'a dit que, vu certaines de mes tenues vestimentaires, que je ne vienne pas me plaindre que l'on puisse m'agresser un jour. Et elle est même allée s'excuser à notre invitée de ma tenue. Peut-être n'ai-je pas le recul nécessaire dû à mon jeune âge, mais est-ce vraiment exhibitionniste de tout simplement assumer mon corps et plus particulièrement ma poitrine ? Dois-je arrêter d'en porter, car certaines personnes peuvent trouver cela offensant ? Peut-être suis-je encore un peu trop jeune pour ça, et surtout, que lui répondre ? Merci d'avance pour votre réponse.
Ah là là, quel bel exemple de slut-shaming familial. Donc non, Claire, ce n'est pas de l'exhibitionnisme. Tu as le droit de t'habiller comme tu veux, ça va sans dire, et sans te justifier. Idéalement, c'est aux autres de déconstruire leur regard, pas à toi. D'ailleurs, on sait qu'il y a des viols parce qu'il y a des violeurs, pas à cause des jupes ou des seins à l'air, contrairement à ce que prétendent les discours culpabilisants. Donc c'est important de bien décorréler les vêtements et les délits. Donc en tout cas, ne t'excuse pas si tu te sens bien dans ta peau et dans ton slip, c'est cool. Moi, je recommanderais plusieurs stratégies à adopter. Par exemple, faire de la pédagogie, donc expliquer à ta mère que le vêtement peut être un symbole politique émancipateur. Free the nipples,
ouais.
Et lui faire lire Ce que soulève la jupe, le livre de Christine Barr qui déconstruit toute l'histoire de la jupe, si jamais ça intéresse ta mère. Tu peux aussi couper court en disant en fait, je suis majeure et vaccinée, donc voilà, stop. Tu peux minimiser, ça peut être stratégique en disant il n'y a pas mort d'homme en fait, ou de femme d'ailleurs. Et tu peux aussi dire à ta mère qu'elle peut se plaindre auprès d'autres gens ou se plaindre dans sa tête. Mais pas auprès de toi, puisqu'en fait, ça n'a aucun effet. Voilà, donc bon courage à toi.
Mais il ne faut pas partir défaitiste.
Non. Salut Anne-Laure.
Salut Clémentine.
À bientôt. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine pour un épisode court sur une œuvre culturelle et avec une nouvelle chroniqueuse. C'est le nouveau format de cette année. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens dans la description de l'épisode. Nous retrouver dans la newsletter tous les dimanches et sur les réseaux sociaux, sans oublier de nous écrire à hello@quadmeuf.net. Quadmeuf est une émission de Clémentine Gallo, produite par Nouvelles Écoutes. Avec à la réalisation Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Charles de Cilia, au montage et mixage Laurie Galigani, coordination Laura Cuissard.